L'Express du 22 mars. Bon, on va revenir rapidement un petit peu sur hier. Là, je vois que déjà dans le chat, ça vous intéresse de savoir comment ça se développe. Eh bien, on n'a toujours pas eu la réponse qu'on a demandé. C'est-à-dire, Martin hier a très clairement indiqué à Stéphane Blais qu'il devait se rétracter sur les mensonges qu'il a dit à notre égard, c'est-à-dire que le crachoir était un OSBL radié d'office, alors que il avait fait ses recherches en grand champion, en grand conspi, en grand recherchiste citoyen, qui est pas bien bon là-dedans. Il a trouvé un crachoir, mais c'est pas nous autres, et ce crachoir-là est un OSBL, et il est radié d'office. Radié d'office, là, c'est pas comme radier du barreau, là. Quand t'opères une compagnie et que tu décides de ne plus l'opérer, de ne plus faire d'affaires, tu fais juste pas renouveler ton nom au registraire des entreprises et tu es radié d'office. C'est comme ça que tu te débarrasses de ça. Fait que c'est pas une sanction, là. C'est pas une... Puis, même à ça, on l'est pas radié d'office parce que c'est pas nous et parce que on n'est pas un OSBL, on n'a jamais prétendu être un OSBL. Ça, il a vraiment déduit ça en voyant en faisant erreur sur la personne ou erreur sur la compagnie. Le crachoir qu'il visait, qui était un OSBL, est une troupe de théâtre. Et d'ailleurs, on a communiqué avec... je sais que ce matin, il dit « Ouais, est-ce qu'ils savent qu'il prenait son nom? » C'est pas son nom, c'est un nom qui ressemble. C'est le même mot, mais... Puis oui, elle est au courant, on y a parlé, puis elle a pas de problème avec ça, puis elle trouvait ça très cocasse, l'erreur ridicule de Stéphane Blais. Un crachoir, pour ceux qui l'ignorent encore, je pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi nos auditeurs, mais un crachoir, c'est un micro. C'est dans le métier d'animateur, de communicateur, ou peut-être même d'artiste, un crachoir, c'est un micro. Ça fait référence à l'expression. D'ailleurs, c'est dans la démarche artistique de la troupe de théâtre visée par Stéphane Blais, mais il n'a toujours pas... malgré notre appel hier lors de l'épisode spécial hors série qu'on a diffusé hier ici sur Touski, il a pas compris le message. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va réitérer le message et le hors série d'hier, on va le présenter ce soir à 21h sur Ménage du Dimanche sur Facebook, donc au su et au vu de tous les conspis et les tous les observateurs qui vont vouloir se renseigner là-dessus et savoir à quel point Stéphane est mauvais pour deux affaires. Un, faire des recherches. Et deux, se contrôler lorsqu'il est dans l'émotion. Parce que Stéphane est pas ben bon dans la raison. Hein? Il est dans l'émotion, puis quand l'émotion est là, la raison n'y est pas. J'ai déjà dit ça à propos de la foi. Ça revient un peu au même. Je sais pas, lui, si lui a mis au courant les bérets blancs qui a pris leur logo pendant assez longtemps pour son... Quand tu parles logo d'une secte pour ta fondation, c'est dur de faire la morale parce que on partage le nom crachoir avec une autre organisation, puis le pire, c'est qu'on le savait pas. On l'a su éventuellement, mais au début, on ne savait pas. On se disait juste, crachoir, ça sonne un peu trash, c'est parfait pour un show pour moi, puis ça évoque un micro, fait qu'on est allé avec ça. Mais en tout cas, c'est assez cocasse, cette histoire-là. Moi, je trouve ça drôle, parce qu'il était convaincu de nous avoir démasqués, et il visait encore une fois à côté de la cible. Si vous êtes dans la région de cette île, vous avez peut-être ressenti un léger tremblement de terre ce matin. Je suis en glissant un mot comme ça. On n'a pas beaucoup d'informations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dommages. C'est un petit tremblement de terre, 3,6 à l'échelle de Richter. Mais c'est intéressant quand même de le mentionner. Je ne sais pas si on a des auditeurs dans ce coin-là qui sont dans le chat présentement. Déception hier, c'est pas arrivé. Non, Donald ne s'est pas fait arrêter. Puis là, ben là, on n'est plus sûr si ça va arriver. Puis là, tu sais, c'est fou comment les rumeurs se promènent. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Trump lui-même qui a voulu partir cette rumeur-là, parce que c'est pas mal lui la source, hein? C'est pas mal lui qui a affirmé ça, qui se ferait arrêter. Mais pour vrai, la rumeur est plus persistante que ça. Et puis là, il y a des gens qui sont insatisfaits du fait qu'ils ne se sont pas fait arrêter. Il y avait des gens hier qui étaient en face du bureau du procureur et qui scandaient des slogans qui disaient « Nobody's above the law »,« Personne n'est au-dessus de la loi »,« Guilty, guilty, guilty ». Puis par bout, ça sonnait un petit peu... bizarre, tu sais, c'est l'espèce de slogan chanté, tu sais, elle nommait des accusations ou des soupçons, puis le monde répondait guilty, guilty, guilty. C'était assez spécial, tu sais, les anti-Trump sont aussi bizarres que les pro-Trump, des fois. Puis bon, okay, peut-être pas aussi bizarre, mais les Américains étant très démonstratifs, ils donnent toujours un bon show. Mais bon, c'est ça, c'est pas arrivé, il s'est quand même pas fait arrêter. Fait que là, il y en a qui disent que ben là, ça va se faire pareil, mais tu sais, selon les rumeurs, il y aurait eu un grand jury, qui est un panel de citoyens au pouvoir avec des larges pouvoirs d'enquête, qui aurait voter une mise en accusation ou qui le ferait aujourd'hui. C'est un peu dur à savoir parce que c'est ce type de structure-là, ça opère de façon confidentielle. Mais écoutez, on va continuer à suivre ça. Puis sait-on jamais, peut-être que ça va arriver dans la prochaine heure et que ce sera la bonne nouvelle de la fin du... D'habitude, on finit avec une bonne nouvelle avec Martin, ben crime, j'aimerais ça que ma bonne nouvelle, ce soit que Trump se soit finalement fait arrêter. Sinon, ben j'ai quelque chose d'autre, c'est certain. Mais je vois pas quelque chose qui... Je vois pas une bonne nouvelle qui battrait celle de l'arrestation de Donald Trump. Évidemment, lui... Il fait déjà du tapage avec ça, puis il dit « Bon, je vais être arrêté, puis j'ai commis aucun délit. » Lui, il a jamais admis sa relation sexuelle avec Stormy Daniels. Et si ça devait être prouvé en cours, ben il va être inculpé pour fausse déclaration. Puis en fait, le plus grave là-dedans, tu sais, c'est que ça pourrait devenir des charges criminelles si on est capable de démontrer qu'il a payé cette personne-là pour qu'elle se taise juste avant sa victoire électorale. Parce que en campagne électorale, tu peux pas dépenser de l'argent comme tu veux. Et ça serait une violation de la loi électorale, du financement des campagnes électorales, si on démontrait qu'il a fait ce paiement-là, qu'il a dépensé cet argent-là pour faire taire quelqu'un. Fait que ça, on continue à suivre ça, c'est intéressant. J'avais d'autres choses à propos de Trump, je pense, mais il faut juste suivre ça, en fait. Il faut juste suivre pour voir si ça va se passer. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Il dit que s'il se fait arrêter, c'est ça que je voulais, je me souviens de m'en rappeler. S'il se fait arrêter, ben là, c'est une source, tu sais, qui n'est pas nommée. Fait que, mais quand même, c'est dans des... sur un site qui est crédible quand même. Fait que la source doit être assez sûre. Donald Trump souhaite, s'il est arrêté, souhaite être menotté. Il veut pas faire comme son équipe. D'ailleurs, son équipe d'avocats est vraiment pas d'accord avec lui parce qu'il il aime ça, lui, donner des shows, mais il se met dans marde une fois de temps en temps à cause de ça. Et lui, c'est ça, il veut se faire arrêter avec les menottes. Il veut avoir des images, des photos de lui menotté. Il veut faire un show, veut être un martyr. Il veut exciter ses troupes les plus radicales. Puis évidemment, son équipe d'avocats lui recommande de faire ça un peu plus discret. C'est-à-dire soit passer par la porte d'en arrière ou s'arranger faire ça en visioconférence. Pour ne pas faire un spectacle grotesque. Mais spectacle grotesque, on est pas mal dans ce que Trump aime beaucoup faire. Je regarde les commentaires. Mes sources me disent... oui, c'est vous, ça, je prends mon temps, il n'y a pas de problème. Mes sources disent qu'il aurait été arrêté, remplacé par un clone. Ah, sait-on jamais? Peut-être qu'il t'sais, il a subi le même sort que le pape. Mais... On espère qu'il va être arrêté pour vrai. Oui, dire qu'il a été président, ça, c'est pour vrai. J'en reviendrai jamais qu'un personnage aussi ridicule que ça ait réussi à se hisser à la tête de la première puissance mondiale, ce qui donne raison au film Idiocratie. C'est pas dans votre culture cinématographique. Je vous incite à aller voir ça. Idiocratie. Ça illustre très bien l'abrutissement de la société américaine, je dirais même nord-américaine. Je pense qu'on n'est pas exempt de ce phénomène-là. Là. On en a des épées, nous autres aussi, puis on l'a vu hein, dans les dernières années sur les réseaux sociaux. Mais épais ou non, il a fallu quand même faire un budget avec notre argent, celui que l'on verse en impôts au gouvernement du Québec et qu'il gère de façon... des fois discutable. D'ailleurs, on va en discuter. Premièrement, ben, il faut quand même donner à la CAQ ce qui lui revient. Le gouvernement Legault respecte sa promesse électorale de baisser d'un point de pourcentage les taux des premiers paliers, des deux premiers paliers d'imposition pour l'année fiscale 2023. Le taux du premier palier qui concerne la tranche de revenus allant jusqu'à 49 000 passe de 15 à 14 %. Et pour le deuxième palier, ça concerne ceux qui gagnent entre 49 000 et 98 000. Ça va être de 19 % au lieu de 20 %. Pour quelqu'un qui gagne à peu près 40 000, ça donne 228$ par année. 428$ pour quelqu'un qui gagne 60 000, 628$ pour ceux qui font 80 000. Et pour ceux qui gagnent plus de 100 000, c'est 814$. Fait que si vous gagnez autour de 30 000, ben, je suis désolé, mais vous sentirez pas ça passer. Bon, si vous gagnez 20 000, c'est 28$. Si vous gagnez 30 000, c'est ça, c'est 128$. Fait que ceux qui vont profiter des plus grosses baisses, bien évidemment, c'est au pourcentage. Fait que c'est plus vous gagnez, plus vous économisez. Fait que plus vous êtes riche, plus vous épargnez. Puis ça, on a attiré l'attention là-dessus. Ça va. Les premiers effets vont apparaître en juillet. Là. C'est là que sur votre chèque de paye, les retenues vont être un petit peu moindres. Un petit peu moindre. Mais bon, c'est tout ce qu'on a à offrir. Et puis évidemment, vu que c'est en pourcentage, ben ça va avec l'argent que vous faites. C'est sûr qu'à 30 000, ça fait pas une grosse baisse d'impôts, mais à 30 000, tu payes pas tellement d'impôts non plus. Fait que est-ce que c'est juste? Bon, écoute, je suis pas la meilleure personne pour évaluer ça. Ce que je peux faire, c'est vous rapporter les chiffres et vous aider à faire votre tête là-dessus. Pour le domaine judiciaire dont on souligne les déboires depuis un certain temps, c'est étrange de voir qu'il n'y a pas d'augmentation de budget. En fait, leur budget va être amoindri de 3,1% alors qu'on manque de... Ben, en fait, c'est plus le manque de personnel, puis je sais pas si on a la capacité de les payer, mais tu sais, c'est de trouver des greffes, des greffières, des greffiers, puis des juges aussi qui manquent beaucoup. Mais bon, on a baissé le budget de la justice de 3,1%. Celui du transport et de la mobilité durable, ça tombe de 23,5%. On explique ça par le fait que l'aide aux sociétés de transport en commun va être moins généreuse cette année. J'imagine que là, vu que on est pas mal sorti de la pandémie, que l'action est reprise, ben là, j'imagine que c'est pour ça qu'on a décidé de sabrer là-dedans. Québec maintient toujours l'objectif de retrouver son équilibre budgétaire, mais pas de suite, hein? 2028. Puis ce qui est spécial, c'est ben spécial. C'est pas si spécial que ça, mais on détaille pas comment on va y arriver. Les choix seront faits plus tard. On va y arriver. Ah oui, de quelle façon? On verra ou bien on vous le dit pas. finalement, ils savent pas. C'est facile de dire on va le faire, mais de le chiffrer, c'est autre chose. Parce que faut dire que l'État va quand même augmenter cette année. Fait que ça va coûter plus cher. On va augmenter en fait de 6800 employés pour la fonction publique. Il va falloir payer ces gens-là. Je sais pas si le ministre Girard le sait, mais non, j'imagine que oui. Mais bon, il se dit optimiste il est optimiste pour ça, mais il est aussi optimiste par rapport à une récession qui pourrait arriver. Il a préparé deux scénarios alternatifs. L'un qui se base sur une croissance un peu plus forte que prévu et l'autre basé sur une récession. Et selon le ministre, Le Québec aurait des avantages pour affronter un ralentissement économique, voire une récession. Il dit, nous avons un taux d'épargne élevé, un taux d'endettement faible, une économie diversifiée et nous sommes au plein emploi. Oui, tellement au plein emploi qu'il y a bien du monde qui se cherche de l'emploi. Tu sais, c'est le fun d'être au plein emploi, là, mais c'est parce que quand t'as plein de monde qui ont pas de job, parce qu'il y en a, quand t'as plein de monde, je veux dire, c'est pas du monde qui cherche des emplois, c'est des entreprises qui cherchent des employés. Quand il y a un paquet d'entreprises qui est là au staff, comme on dit, ben c'est une autre sorte de problème. Là, tu sais, tu peux citer le fait qu'on est en plein emploi, mais on peut prendre ça de l'autre bord puis dire qu'on manque d'employés pour faire fonctionner des entreprises. D'ailleurs, je sais pas où il va prendre ses 6800 nouveaux fonctionnaires, mais on lui souhaite bonne chance. Surveillez les Emploi Québec, ils vont avoir des annonces. Mais bon, c'est ça, le risque d'une récession serait d'à peu près 1 sur 2. Fait que, tu sais, c'est un peu pile ou face. J'imagine que c'est pour ça qu'il s'est préparé deux plans pour faire face à l'avenir. Dans le journal La Presse, on a rapporté les propos de certaines personnes, notamment Fred Beauchemin, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances pour le Parti libéral du Québec. Il dit « On a une récession potentielle à nos portes. On voit la lecture du budget que le gouvernement semble voir la vie en rose pour la baisse d'impôts. » On dénonce pas mal la baisse d'impôts. On dit que c'est un détournement de fonds qui allait au fond des générations. Effectivement, on va beaucoup pigé dans le fond des générations qui est censé payer la dette. Fait que on va régler nos problèmes actuels au détriment des générations futures, hein, qui, tu sais, cet argent-là, il va falloir le remettre quand même, là, tu sais, puis la dette du Québec ne diminue pas. Et c'est pas en prenant de l'argent dans le fond des générations pour faire des cadeaux ou pour remplir des promesses électorales qu'on règle le problème. Je suis assez d'accord avec ce que dit Fred Beauchemin. Du côté d'Haroun Bouazi, qui est porte-parole des finances pour QS, elle dit « Le budget s'appelle un budget engagé. Il devrait s'appeler un gouvernement irresponsable. » Ouh, cinglant. À la place de M. Girard et de François Legault, je serais gêné pour arriver avec une baisse d'impôts comme ça. C'est pas normal que le gouvernement donne 120... C'est vrai, tant qu'à baisser... Ben, en tout cas, je l'ai expliqué, là. C'est pas normal que le gouvernement donne 128 piastres à la caissière et 814 à un PDG d'une compagnie d'alimentation. Ça paraît pas juste, tu sais, de point de vue de pourcentage, c'est juste. De point de vue aussi que la caissière ne paie pas beaucoup d'impôts, c'est sûr que elle aura pas un gros break. Mais pourquoi elle paye pas beaucoup d'impôts? Parce qu'elle gagne un salaire de misère. Fait que, tu sais, il y aurait peut-être eu moyen, tu sais, de favoriser les premiers paliers d'imposition, c'est-à-dire ceux qui gagnent pas cher. C'est pas parce que tu payes pas beaucoup d'impôts que t'es riche. Tu sais, si tu fais au-dessus de 100 000 par année, tu payes des impôts à la hauteur de ton salaire. Tu sais, c'est déjà tout établi. Ceux qui, ils disent, la classe moyenne en arrache, je sais pas qui met dans la classe moyenne. Au-dessus de 100 000, là, c'est plus la classe moyenne. Mais ouais, peut-être que ça coûte un petit peu plus cher, en arracher pour quelqu'un qui gagne 100 000, puis en arracher pour quelqu'un qui gagne 30 000, c'est pas la même affaire. Celui qui gagne 100 000 et qui en arrache, il dit « Ah, maudit paiement de piscine creusée! » Puis celui qui gagne 30 000, dit « j'ai plus rien à manger. » On dirait que c'est pas les mêmes enjeux. Il y en a un qui se demande il va chauffer moins sa piscine cette année. Puis l'autre se demande s'il va avoir quelque chose à chauffer dans un four. Hein? C'est drôle comment les priorités changent en fonction du salaire que l'on fait. Il y a une couple d'affaires intéressantes quand même. Une hausse des frais de recyclage des pneus. Ceux qui vont s'acheter des pneus neufs vont payer 4,50 par pneu au lieu des 3$ qu'il y avait depuis 99 pour financer le programme de recyclage. Ben, écoute, si l'argent va directement là, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de raison de croire qu'il ira pas, là. Je m'amuse un peu à être mesquin. Mais c'est une bonne chose, je veux dire. Je pense que les pneus, c'est une bonne source de pollution, tu sais, puis la façon de s'en débarrasser, tu sais, quand ils sont pas recyclés, c'est assez difficile, tu sais, les recycler, les réchapper, les retaper, puis on peut faire différentes choses en déchiquetant le caoutchouc, mais je pense pas qu'on puisse tellement le faire fondre puis faire, tu sais. Fait que c'est une bonne chose qu'il y ait une taxe. Ceux qui ont des gros calibres de pneus vont payer un peu plus cher, 6$ pour ceux qui ont des jantes de plus de 24,5 pouces. Ben, c'est ceux qui ont des gros pick-up, finalement. T'sais, c'est tout coûte plus cher, les roues coûtent plus cher, ben la taxe va être plus chère sur les roues. Puis des pneus, tu sais, avant, c'est une bonne nouvelle là, qu'on les recycle. T'sais, j'ai un ami qui avait parti, on était jeune dans vingtaine, début vingtaine, lui s'était trouvé, lui voulait suivre un cours de plongée, puis voulait se payer un équipement de plongée complet. Puis il a réussi à se le faire financer en échange de décontaminer un lac, le lac Saint-Augustin dans le coin de Québec, un des endroits où je suis né. Et puis, en faisant ça, il a rempli deux camions de 18 roues, juste de pneus. Juste des pneus dans le fond du lac Saint-Augustin. C'est pas un gros lac. Je sais pas si vous connaissez le lac Saint-Augustin. Il est tellement petit que à moitié de l'été, on peut quasiment marcher dessus tellement il est rempli d'algues. Mais c'était énormément de pneus qu'il a trouvé là-dedans et de vidanges aussi. Là, faut dire qu'il y a eu une certaine époque où les résidents riverains de lac, pour disposer de leurs déchets, ils allaient les mettre au milieu du lac et le problème disparaissait au printemps. Ça a coulé dans le fond. Il allait ramasser de la cochonnerie et des pneus, c'est ce qu'il y avait le plus. Deux camions 18 roues qu'il a ramassé à bras, à lui tout seul. Ça, il a pris, je pense, deux étés faire ça. Mais c'est une bonne chose qu'on taxe les pneus et qu'on mette un effort pour recycler le caoutchouc, qui est un produit assez, un résidu assez dégueulasse lorsqu'il n'est plus neuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Dans le plan de santé de Christian Dubé, ça va être bonifié de 5,6 milliards supplémentaires d'ici 5 ans. Les services de première ligne devraient être améliorés avec l'ouverture de 6 nouvelles cliniques avec des super infirmières cette année. Pour vrai, si on trouve les super infirmières pour les peupler, ça devrait donner un coup de main, en tout cas à l'accès pour des soins qui ne nécessitent pas nécessairement d'aller à l'urgence. T'sais. Moi, je me suis comme fêlé un orteil. Ça m'a pas tenté d'aller passer 192 heures à l'urgence avec mon problème qui ne menace pas ma vie, tu sais. Puis c'est avec raison que j'aurais attendu. C'est sûr que tout le monde aurait été plus grave que moi. Résultat, j'aurais pas eu de soins. J'ai soigné ça à la maison. Puis j'avais pas accès à des cliniques parce que j'étais dans la région des Bois-Francs et comme je n'y réside pas, j'avais pas apparemment droit d'aller dans des cliniques sans rendez-vous. J'avais pas droit de prendre rendez-vous à une clinique sans rendez-vous. Donc j'ai fait ça maison. Mais faut dire que c'est pas quelque chose de très grave. Mais j'aurais peut-être apprécié aller dans une clinique pour qu'on me confirme qu'il était failé ou cassé puis qu'on m'arrange ça. Mais j'ai décidé de faire comme ben du monde aujourd'hui puis de m'arranger avec mes troubles parce que je me tentais pas d'aller vivre à l'hôpital pendant une semaine. Donc on promet 29 cliniques supplémentaires d'ici 5 ans à l'échelle du Québec, évidemment. Le gouvernement va injecter aussi à peu près 700 millions pour diminuer la liste d'attente des personnes en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an. 20 000 personnes qu'on retrouvait là-dessus au 31 décembre dernier. On veut retrouver on veut que les chiffres ressemblent à ceux qui prévalaient avant la pandémie. C'était 3 000 à peu près personnes qui étaient en attente. Là, c'était à 20 000. Il fallait faire quelque chose. On espère que d'injecter de l'argent comme ça, ça va contribuer à régler ce problème-là et donner accès à des gens qui attendent une chirurgie. Crime, c'est pas drôle, attendre une chirurgie. Des fois c'est bénin, mais des fois c'est ta vie qui en dépend ou tes conditions de vie. Fait qu'on espère que ça va marcher. Il y a 213 millions sur 5 ans qui vont être consacrés au déploiement de la francisation du Québec. On ne spécifie pas comment ça va se faire exactement. Je ne partirai pas sa langue, mais je suis toujours sceptique par rapport aux mesures qu'on veut prendre et l'argent qu'on veut utiliser pour ça. Moi, je pense que cet argent-là devrait être dans les écoles parce qu'apparemment, c'est les écoles qui enseignent la langue et ils ne le font pas très bien, je pense. Rappelez-vous, on en a parlé il y a quelques semaines, à quel point on avait nivelé vers le bas et que les preuves obligatoires de français étaient échouées par un élève sur deux, ce qui est assez assez décourageant. Je sais pas si envoyer de l'argent comme ça, puis comment ça sera utilisé, si on ne le dit pas, dans l'article que j'ai sous les yeux. Ça fait le tour, je pense, du budget. Tiens, un petit peu de temps avant la pause, je pense que je vais en profiter pour en glisser une petite rapide. J'en ai une couple de spéciales aujourd'hui. Tiens, je vais y aller avec l'alcool. Au Québec, c'est 0.008 la limite d'alcoolémie qui est tolérée dans le sang. Ailleurs, c'est pas mal partout. On est monté à 0.05. Je te dis, ouais, c'est 0.08. Là, on est monté à, on était à 0.05 dans beaucoup d'endroits, en fait. Toutes les provinces canadiennes ont des sanctions administratives. Le gouvernement fédéral décide de ce qui est criminel. Le gouvernement fédéral a statué que si on dépasse 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, c'est-à-dire le fameux taux de 0.08, c'est criminel. C'est le gouvernement fédéral qui décide de ça, parce que c'est le code criminel. Par contre, les provinces peuvent changer le code de sécurité routière. Le fameux code de la route, là, le code de la route, ça n'existe pas, cette expression-là. C'est le code de sécurité routière. Ils peuvent, les provinces peuvent imposer des sanctions administratives pour rendre plus sévère ce 0.08 si on n'est pas d'accord avec Ottawa, ce qui a été le cas de toutes les provinces. Puis apparemment, la plupart des États en Occident en sont pas mal à cette norme-là, à ce seuil-là d'alcoolémie. Qu'est-ce que ça veut dire des sanctions administratives? Ben, ça veut dire que si qu'au-delà de 0.05, vous n'aurez pas de dossier criminel pour ça, mais vous aurez des sanctions quand même. Donc on fait pression, évidemment, c'est des familles de victimes et des proches de victimes et des victimes de la route font pression sur le gouvernement pour que l'on s'aligne sur le reste des autres provinces pour qu'à 0.05, il y ait au moins des sanctions administratives. Et évidemment, on souhaite aussi que le gouvernement fédéral rende criminel, c'est-à-dire de conduire avec 0.05 plutôt que 0.08. Puis, on se base quand même sur des chiffres, c'est pas juste des feelings, des émotions. Puis, le risque qu'un conducteur soit impliqué dans une collision mortelle est multiplié par 1.7 avec ceux qui ont un taux d'alcool entre 0.2 et 0.5. Fait que même en bas de 0.5, il y a plus d'incidence, tu sais. Puis je comprends aussi que c'est, tu sais, il y a le facteur de la tolérance, c'est pas tout le monde qui ont la même tolérance à l'alcool. Tu sais, je connais du monde qui vont boire, tu sais, qui vont se rendre jusqu'à 0.08 ou même un peu plus, puis ça paraît même pas. Puis moi, je vous garantis que si je bois une bière et demie en dedans d'une heure, je prendrai pas la chance de conduire parce que je vais la sentir physiquement parce que j'en bois pas d'alcool. Fait que, tu sais, c'est ça du ouais, on se fait rien, 2-3 bières. Ça dépend, t'es qui? Ça dépend de ton habitude de consommation, de ton seuil de tolérance. Moi, vu que je bois jamais d'alcool, ben, crime, 2-3 bières, je suis feeling. Vous pouvez rire de moi, puis je vous invite à le faire. Mais je suis feeling à 2-3 bières. Je suis comme... rappelez-vous votre première brosse là à 12-13 ans qu'achète dans la cave là, moi c'est ça. C'est tout le temps ma première brosse. Ça me coûte pas cher quand je vais en virer une. Mais bon, je trippe pas dessus. On multiplie par 4 ceux qui ont un taux d'alcool entre 0.5 et 0.8. C'est là que ça devient un petit peu plus marquant, puis je pense que c'est pour ça qu'on veut abaisser ça à 0.5. Et là si on monte là, vraiment, on parle de une alcoolémie élevée, là, entre 0.08 et 1.5, on multiplie par 23,9 ou 24% le risque qu'un conducteur soit impliqué dans une collision mortelle. Je sais qu'il y a des gens qui seraient pas contents que ça tombe à 0.5, mais en même temps, on est les seuls à pas le faire. Sommes-nous les seuls à avoir raison? J'en doute. On y pense pendant la pause.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
On réagit dans les commentaires. Ben oui, faut assumer les conséquences quand on fait le choix de boire, puis on peut planifier ou se trouver un chauffeur désigné ou, comme on m'a souvent qualifié, un chauffeur résigné. Quand je suis un ami, si je fais partie de vos amis, je suis souvent cette personne-là, un petit peu tanné d'ailleurs, mais non, c'est quand même pas si pire. J'aime mieux aller reconduire des gens, des amis sous, que les voir risquer leur vie, risquer la vie d'autres personnes. Puis, Les commentaires sont drôles. Coke Diaz, ils vont faire être écrit évidemment en alphabet conspi là, ils vont avec des trois fautes par mot. Ils vont faire un décret liberticide pour nous empêcher de boire dans nos trucks. Oui, des réactions qui risquent de recommencer à sonner comme ça. Tu sais, je serais pas étonné. Ok, il y a de nouvelles allégations des conduites sexuelles qui ont été rapportées à la LIHGMQ. On en a parlé beaucoup. Martin en a parlé plus que moi. Il s'y connaît mieux en hockey. En fait, il a vécu ce qu'est faire partie d'une équipe de hockey. Moi aussi, mais genre, même pas une saison complète, le temps que mon équipement me fasse plus quand j'avais 6 ans. Là, fait que j'ai pas vécu d'initiation. Ça a l'air qu'il y a des nouveaux faits allégués qui remonteraient à la première moitié des années 90. On ne nomme pas évidemment la victime et on ne nomme pas non plus l'équipe parce que ça pourrait permettre d'identifier la victime, ce qu'on ne veut pas faire à ce point-ci. Mais c'est une équipe de la LHJMQ. Là. C'est pas une équipe dans l'Ouest, à l'autre bout du pays. Là. Ça se serait passé dans les années 90, puis le commissaire par intérim a été mis au parfum de ça, puis quand on lui a demandé s'il y avait encore des activités de bizutage, dit-on dans le journal, j'étais pas familier avec ce mot-là, de bizutage, ben, c'est un autre nom pour dire initiation, fait que s'il y avait encore des initiations qui étaient en cours dans la LHJMQ, dit non, mais bon, ça arrive plus, là, mais... Bon, il y a une enquête pour d'autres allégations. D'autres aussi qui se sont produits dans une organisation que l'on connaît, celle du Phoenix de Sherbrooke en 2016-2017. Donc, je suis tenté de dire les rats ont quitté le navire, mais je le dirais pas autrement que ce que je viens de faire là. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que la décision de Gilles Courteau fut la bonne de sacrer son camp avec une sorte d'autre cas. Parce qu'au début, tu sais, il y a eu des cas, mais c'est tout... La LCH, c'est tout au Canada. C'est pas la LHJMQ est pas touchée par ça. Puis là, pouf, c'est sorti. Finalement, la LHJMQ trempe dans cette culture d'initiation dégradante basée sur des agressions sexuelles depuis toujours. Fait que évidemment, Gilles Courteau a dû premièrement se récuser parce que il avait un petit peu comme menti. Puis on l'a squeezé là-dessus, puis je pense qu'il a pas vécu un bon moment. Et je pense que il a décidé de sacrer son camp pendant que c'était le temps, parce que j'ai l'impression qu'il, tu sais, il pouvait pas être dans l'ignorance à ce point-là. Il devait pressentir qu'il allait sortir d'autres dossiers. Il a sacré son camp. Maintenant, bon, on peut y foutre la paix, mais on peut quand même y faire un petit clin d'œil en lui disant « Bon timing, mon Gilles. » Tu t'es poussé à temps. Mais bon, c'est sûr que là, c'est la patate chaude se retrouve entre les mains du directeur par intérim, Martin Lavallée, qui va être en poste jusqu'au 8 mai. Le commissaire du circuit, qui est Mario Ciccini, qui a été entendu aussi lors de la commission parlementaire, il va falloir qu'il deal avec ça. Il y a eu plusieurs témoignages, mais c'est ça. En gros, on a appris qu'il y avait d'autres cas qui n'avaient pas été dévoilés, mis au grand jour, puis j'ai l'impression qu'il va en avoir encore, parce que c'est une pratique qui est généralisée, c'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est pas une nouvelle, là. C'était dans la culture du hockey mineur, du hockey majeur, j'imagine aussi, mais du hockey mineur, c'est plus préoccupant, et je pense pas que ce soit disparu comme par magie, parce qu'on a fait une commission parlementaire, et parce qu'on a dit « Bon là, c'est fini, on fait plus ça. » Une autre chose qui aurait intérêt à être finie, c'est ces cas de crimes sexuels dans le milieu scolaire. Il y a encore un cas ce matin. Puis, pour vrai, il y en a eu dans les derniers jours aussi. Je parle pas de tous les cas parce que c'est déprimant, puis c'est pas toujours utile, mais ce matin, il y a un enseignant du collège... Stanislas, qui a été arrêté à Prenton pour une multitude de crimes sexuels. Écoute, envers ses élèves, évidemment. Le prédateur, le loup était dans la bergerie. Qui s'appelle Alexandre Gagné. C'est un enseignant de 48 ans au niveau secondaire et collégial. au collège Stanislas à Montréal. Il s'est fait arrêter hier matin, si je me trompe pas. Oui, je pense que c'est ça, c'est hier matin, par le service de police de Montréal. Et puis, il a comparu hier après-midi, brièvement, là, au palais de justice. Il fait face à une quinzaine d'accusations. Oh, on vient de tomber. On est-tu là? On est-tu de retour? Je pense que oui. C'est l'ordinateur de mise en onde qui a crashé dans le studio 1 de Touski. Ce que j'étais en train de raconter avant de vous perdre, c'est que cet enseignant-là, je ne sais pas si vous avez attrapé son nom, Alexandre Gagné, qui est enseignant au collège privé de Montréal, qui s'appelle Stanislas, le collège Stanislas. Il fait face à une quinzaine d'accusations, dont agression sexuelle, contact sexuel, action indécente, distribution de matériel sexuellement explicite, leur distribution de cannabis à une personne de moins de 18 ans. Un beau champion se décrit comme comme un enseignant techno, un pédagogue, un enseignant, un technopédagogue, un historien, un blogueur, un auteur et un journaliste indépendant qui aurait œuvré pour divers médias à travers les années. Mais là, tu peux rajouter à ta liste agresseur sexuel. C'est encore un cas de qui vient attacher le milieu scolaire comme étant apparemment un terrain de jeu pour les prédateurs sexuels. C'est ce qui transparaît de l'actualité des dernières semaines, voire derniers mois. C'est certainement pas nouveau, là. La nouveauté, c'est sûrement plus qu'on dénonce puis que les médias s'y intéressent. D'ailleurs, les médias, le fait que les médias s'y intéressent, je pense que ça a peut-être motivé... tu sais, la classe politique, les politiciens sont très, très, très réactifs à ce qui touche leur image. Puis quand t'es à la tête d'un ministère, tu es responsable de ce qui s'y passe. Et quand les médias entachent ton ministère avec des histoires dégueulasses de crimes sexuels, ben, il faut que tu réagisses. Et si quelqu'un le comprend bien, c'est l'ancien journaliste Bernard Drainville, qui est maintenant ministre de l'Éducation. Il y a annoncé hier le déclenchement d'une enquête générale sur les multiples allégations de crimes sexuels survenus dans le réseau scolaire au courant des derniers mois. Autrement dit, ce qui est sorti dans les médias, apparemment, avant, c'était moins une urgence, mais là, c'est partout dans les nouvelles et que le ministère de l'Éducation a l'air de ne pas s'occuper de ce problème-là. Là, on réagit. Donc, l'enquête qui va faire... suite à ces dénonciations-là, et c'est, moi, j'ai goût de juste dire ces nouvelles-là, parce qu'apparemment, tu sais, comme dans le cas de le professeur marieur, là, celui qui faisait des enfants, qui se mariait, lui, ça avait déjà été dénoncé dans son établissement, puis, tu sais, c'était pas bien grave. Mais là, quand ça se trouve dans les nouvelles, ça entache un petit peu plus. Donc là, on veut faire une enquête là-dessus. Le ministre a notamment cité le cas, oui, évidemment, du centre de service scolaire du chemin du roi, celui justement de l'enseignant qui avait une liaison avec une adolescente avec qui il y a eu un enfant et aussi l'autre enseignant. En fait, le même enseignant, lui, c'était celui-là, s'était pris d'une autre élève, puis il avait fait trois enfants avec celle-là aussi. Mais il y a aussi celui de l'éducatrice spécialisée du centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île, Véronie Campeau, qui avait eu des contacts sexuels sur une mineure de moins de 16 ans. Il y en a eu des cas, là. Puis même, oh, celle-là, c'était épouvantable. Le professeur du Centre de service scolaire des Patriotes, que lui faisait du proxénétisme. Lui prostituait ses élèves. Colin, tu sais, c'est dur d'aller plus grave que ça, là, plus bas que ça, là. Là, c'est ça. On va essayer de faire cette enquête-là et on veut lui donner une portée... général, c'est la mission dont il a investi les fonctionnaires de la Direction générale des affaires internes du ministère de l'Éducation. C'est eux qui vont être chargés de faire l'enquête. Ben, le crime, il était temps, mon Bernard. Puis, à l'avenir, attends pas les nouvelles. Tu peux prendre l'initiative de t'attarder à des problèmes comme ça sans attendre que ça devienne urgent parce qu'on voit ta face dans les nouvelles rattachées à ce ministère-là. Où il se passe des affaires hautement immoral dans ces bâtiments-là. D'ailleurs, parlant de bâtiments, les bâtiments scolaires, ça fait dur. Ils sont vétustes. C'est pas la première fois qu'on en parle au Québec, comme quoi nos bâtiments, nos écoles font pitié. Ça a été même un gros sujet, si je me rappelle bien, il y a 2-3 ans où on montrait des écoles. Il y avait même des écoles qui avaient été fermées à cause de la qualité de l'air qui était déficiente. Puis là, on amenait les élèves ailleurs, leur faire l'école ailleurs. Puis là, on n'en parlait plus récemment. Bon, moi, c'est réglé, ils ont tout réparé ça. Eh bien non, ça s'est envenimé. La proportion des établissements scolaires en mauvais état est passée de 59 à 61% depuis un an, dans la dernière année. Québec entend investir 200 millions supplémentaires pour la rénovation, mais j'ai l'impression que ça va être insuffisant. Puis, je suis pas perdu, je suis découragé. Il y a comme une tendance à niveler par le bas... que l'on remarque avec le gouvernement de la CAQ, hein? Rappelez-vous, surtout dans le ministère d'Éducation. Rappelez-vous, bon, tantôt j'ai fait allusion à l'épreuve de français qui était échouée par la moitié des étudiants. Rappelez-vous aussi le cas de l'examen de mathématiques qui avait été lui aussi échoué par la moitié des élèves. L'examen de mathématiques qu'on avait pris soin de simplifier. On avait dit, à cause de la pandémie, on va rendre cet examen-là un peu moins difficile afin que y ait plus de gens qui le passent puis qu'on n'ait pas l'air fou et qu'on n'ait pas l'air d'avoir perdu une génération et qu'on se ramasse avec des chiffres gênants, genre la moitié du monde qui l'échoue. Eh bien, malgré le fait que on ait simplifier cette épreuve-là de mathématiques, ben c'est quand même le résultat qu'on a eu, c'est-à-dire que la moitié des élèves l'ont échoué. Puis qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a majoré leurs notes. On a nivelé par le bas. Ben là, j'ai l'impression qu'on veut faire la même chose avec l'état des bâtiments scolaires. Parce que là, on dit, ben là, la façon que ça marche, là, c'est chaque centre de service évalue ses écoles. Fait qu'il y a un incitatif à dire de « Ouais, j'ai besoin d'argent pour mes écoles. » Fait que, tu sais, t'es en train quasiment d'accuser les bâtiments scolaires de brosser un portrait plus sombre de leur bâtisse pour avoir plus de financement. Je trouve ça un peu cavalier, mettons, de faire ça comme ça, tu sais, de présumer de ça. C'est un petit peu de mauvaise foi. Puis, d'ailleurs, le ministre qui raconte ça. Avec des exemples, il essaie de justifier ou d'expliquer ou d'amoindrir avec des exemples anecdotiques basés sur son expertise qui n'est pas celle d'un contracteur. Il dit, dans certains cas, je rentre dans une école qui est officiellement classée C ou D ou même E. Puis je regarde dans l'école, puis je comprends pas pourquoi qu'elle trouve pas correct. Moi, je vois pas qu'est-ce qui est pas correct. Je comprends pas qu'elle soit déclarée vétuste. Puis là, t'sais, se rendant compte de la gaffe verbale qu'il fait, ou plutôt du caractère insensé de son argumentaire, il dit d'un même souffle qu'il reconnaît que les problèmes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Oui, c'est vrai que quand tu te promènes dans l'école, mon Bernie, ton nez évalue pas la qualité de l'air. Pas parce que ça pue pas qu'il n'y a pas des gaz, du radon ou du CO2 ou je sais pas quoi, de la poussière dans l'air que tu respires et que respirent les élèves. Mais bon, lui, on dirait qu'il est mieux se fier à son visou. Je sais pas si quand le ministre se promène dans l'école, on lui montre, je sais pas, moi, tiens, voici la salle de chauffage et la flaque d'huile par terre qui vient. Ou voici notre sous-sol. On va vous demander de mettre un casque pour. Non, c'est juste pour pas vous mouiller vos beaux cheveux parce que ça coule un peu par là. Puis, ah oui, c'est vrai, il y a un tuyau qui est tombé l'autre fois. Un tuyau en plomb, tu sais, en passant. Fait que, bon, je caricature un peu. Mais c'est pas en te promenant dans l'école, Bernard, que t'es capable de décider si elle est vétuste ou non, tu sais. Puis, d'ailleurs, c'est le même argument qu'a utilisé Pascal Bérubé, le député péquiste, pour lui remettre ça un petit peu d'en face. Il est-tu entrepreneur, lui? C'est ce qu'il a dit. Effectivement, il est pas entrepreneur. Les inspecteurs, tu sais, s'attardent à la qualité de l'air, les structures. Tu sais, s'il y a des fissures dans le solage, tu Tu verras pas ça, là, Bernard, dans ta petite visite guidée, là, pour une petite mise en scène. Parce que c'est toujours ça, c'est toujours des mises en scène. Cette affaire-là, c'est des photo-op, là, tu sais, c'est des mises en scène. Même quand un ministre de la Santé va aller visiter un hôpital, là, je me rappelle, c'était arrivé à Rouen, peut-être-tu Barrette ou ben, je pense que c'était Barrette, mais peu importe le ministre, là. Quand il arrive, on lui fait suivre un parcours prédéterminé, puis on lui joue une petite pièce de théâtre, là, tu sais, on... Là, voici la salle des soins intensifs. Non, pas celle-là, regardez pas par là! Regardez par là, là, celle qui est belle, celle qu'on a fait le ménage, celle avec nos trois nouveaux lits. Alors, regardez pas celle où il y a du monde en train de crever sur des civières les unes sur les autres, puis, tu sais, je caricature, mais c'est ça pareil. Chaque hôpital essaie de donner, ou école, essaie de donner une la meilleure image possible, je pense, pour les caméras. Et d'ailleurs, l'équipe des attachés de presse s'assure que cette image-là soit profitable au ministre. Il s'en va pas. Un ministre va pas aller visiter une école pour mal paraître et faire mal paraître son ministère. Hein? C'est l'inverse qu'on veut faire. Fait que ça se peut, mon Bernard, que t'aies pas remarqué la vétusté de tes écoles quand on te fait faire une visite guidée de l'aile la plus belle et la plus neuve. Colin, il reste 10 minutes. Je rentrerai peut-être pas dans la chemin. Tiens, on va faire super rapidement un petit suivi sur le sommet. La bromance entre Vladimir Poutine et Xi Jinping qui se sont fait des bro jobs aujourd'hui, hier plutôt, qui était leur deuxième journée ensemble. Puis là, ben là, on parle d'une nouvelle ère dans leur relation. Puis les deux affirment qu'ils devraient jamais avoir de guerre nucléaire. Ouh, on s'en réjouit. Est-ce qu'on s'en rassure? Pas nécessairement. Évidemment, les deux entités, les deux pays accusent les États-Unis de saper la sécurité mondiale. Ils reprochent à l'OTAN d'avoir une trop grande présence en Asie, essayer de trop se rapprocher. D'ailleurs, tu sais, c'est pas l'Asie n'est pas unie en arrière de la Russie. Hein. D'ailleurs, pendant que Xi Jinping et Vladimir Poutine faisaient joujou à Moscou, le premier ministre japonais Fumio Kishida, lui, il est allé en Ukraine pour une visite surprise. D'ailleurs, Tokyo fait partie, s'est joint aux sanctions occidentales contre la Russie, puis va aider déjà l'Ukraine et va annoncer une nouvelle aide à la hauteur de 5,5 milliards pour venir en aide à l'Ukraine. Fait que tu sais, c'est pas l'Asie au complet hein, qui est derrière l'alliance. Je dirais la Russie parce que même s'ils sont des amis pour la vie, puis ils se promènent, tu sais, en se tenant par le petit doigt. La Chine soutient de façon timide quand même l'action militaire en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, devrais-je dire, pour être exact. Tu vois qu'ils veulent pas que la Russie perde, mais en même temps, ils veulent pas avoir l'air de ceux qui excitent les passions et qui sont en faveur d'une guerre à plus large échelle. Tu sais, ils jouent très stratégique et ils se servent, je pense, de la Russie pour eux autres fortifier leur présence. Fait que, tu sais, évidemment, c'est un jeu, c'est une game. Et la Russie se sert de la Chine pour montrer qu'ils ne sont pas totalement isolés, qu'ils ont encore des amis et des appuis de taille. Quand Vladimir parle de l'appui de la Chine, il l'exagère un peu. Et quand la Chine, Xi Jinping parle de l'appui envers la Russie, il l'amoindrit un peu pour essayer de tempérer ça. Tu sais, c'est une game politique et d'opinion publique à l'échelle planétaire qui est en train de s'opérer là. Pendant ce temps-là, comme je disais, Tokyo va aider encore l'Ukraine. Et les États-Unis vont quand même livrer une autre nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, un montant de 350 millions de dollars, et des munitions pour les lance-roquettes. Ça va ressembler à ça. Je pense pas qu'on aille plus loin du côté de Pékin dans l'appui. Et je pense que cette opération-là est une espèce de pièce de théâtre pour que les deux nations tirent profit de cette espèce d'alliance grise entre les deux. Hier, je parlais du fait que on s'inquiétait est-ce que au Canada à cause des cas d'ingérence chinoise et de ces polices, ces postes de police clandestins chinois, ben on craignait qu'il y ait des dérives racistes. Et ben un ancien député libéral se dit victime de menaces, des menaces de mort et de toutes sortes de messages haineux. Il s'agit du député torontois Han Dong. Comme dans Han Dong Aldress. OK, je ne voudrais pas faire des jokes de nom, c'est niaiseux. Mais par exemple, ce que je peux dire, c'est que ce député torontois-là fait partie des gens qui étaient... qui avaient bénéficié de cette ingérence chinoise-là. On vous racontait que dans... les publications sur le site du Centre d'aide pour la famille, ben on aidait même les gens en leur disant pour qui voter et on lui disait de voter pour lui, entre autres. Fait que lui, il, de son côté, il dit « Moi, je me suis rien fait offrir, on m'a pas acheté, je me suis rien fait dire, j'ai pas été informé qu'on disait aux gens de voter pour moi, j'ai pas eu l'aide d'un pays étranger. » Ben ça, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut le croire? Ben là, c'est... Je peux pas évaluer la crédibilité de ces dires. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que moi, j'ai de la misère à penser qu'il était pas au courant qu'il y avait de l'aide électorale et que dans son coin, le centre d'aide familiale pour les Chinois, j'ai de la misère à croire qu'il était pas au courant qu'on disait aux gens de voter pour lui. Mais résultat, aujourd'hui, il reçoit des messages haineux, des menaces de mort. Puis ça, pour vrai, ça n'a pas sa place. Puis, tu sais, quand ben même, il serait au courant de tout ça. Quand ben même, il parlerait au téléphone sur une base hebdomadaire avec le régime communiste. C'est pas des messages haineux puis des menaces de mort qui vont changer la situation. D'ailleurs, la GRC a ouvert une enquête sur... tout ce qui concerne l'ingérence chinoise, je pense qu'ils sont capables de s'occuper de faire justice. En tout cas, mieux que des tatas qui décident d'envoyer des messages haineux à un politicien parce qu'il est chinois et parce qu'il est bon, il est impliqué là-dedans. On peut lui poser des questions. On peut lui réclamer des réponses. On peut le cuisiner de façon assez sévère et vindicative, mais des menaces de mort puis des allusions racistes, c'est juste dégueulasse, puis ça règle rien, puis malheureusement, s'il y a trop de réactions de racisme, ça va décrédibiliser ce qu'on a vraiment à reprocher à la Chine, parce que c'est ça qui est le plus fou, c'est que ces gens-là nuisent à tous les niveaux. C'est-à-dire que oui, ils nuisent parce que le racisme, c'est inacceptable, puis ils font du tort, t'sais, réel, t'sais, puis ça va souvent être des menaces, puis ils font vivre des affaires épouvantables à du monde. Mais aussi, ils viennent brouiller les cartes, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ils viennent mettre de l'émotion dans un cas qu'il faut qu'il soit... réglé de façon légale puis de façon lucide, fait que ça règle rien. Je vais aller avec une bonne nouvelle parce que la fin approche. J'en ai deux. Ben, t'sais, je vais aller faire les deux, une très rapidement. Dans sa série Hommage, le Cirque du Soleil va présenter un spectacle hommage au joueur de hockey Guy Lafleur, que l'on connaît très bien. Un spectacle de 75 minutes qui sera hautement acrobatique, dit-on, joyeux et généreux. En tout cas, l'image du numéro 10 des Canadiens qui est décédé à l'âge de 70 ans le 22 avril 2022. Il va y avoir 29 artistes, puis il va y avoir des tunes des années 70, évidemment. C'est du Boule Noir, du Jerry Boulet, Loco Locas aussi, du Gilles Valiquette. Bon, Loco Locas, pas les années 70, mais je pense qu'on se doute un peu pourquoi. Donc, ce spectacle-là qui va être... en scène à Trois-Rivières. Ça devrait être assez intéressant de voir ça cet été. Et l'autre, ben c'est plus une nouvelle insolite que vraiment une bonne nouvelle, là. Mais en tout cas, moi me fait rire. Depuis une semaine, sachez que sur les tablettes de la SQDC, en fait, cachées derrière les armoires, parce que faut pas qu'on voit les produits qu'on achète, même si c'est des grosses enveloppes brunes. Eh bien, dans les produits consommables infusés au THC, au pot, eh bien, il y aura du beef jerky, de la viande de bœuf séchée. C'est la première fois qu'ils vont vendre un produit comestible qui n'est pas composé de légumes ou de fruits séchés. Et ça répond à toutes les conditions. Parce qu'il faut pas que ce soit un dessert, faut pas que ce soit une confiserie, faut pas que ce soit du chocolat, il faut pas que ce soit beau, faut que ça ait l'air dégueulasse, il faut que ça goûte la marde. Pour vrai, les normes, c'est, il faut pas que le produit soit attrayant. Que ce soit par son goût, sa texture, sa couleur, et sa saveur. Autrement dit, faut que ça ait l'air de la marde. Faut que ça sente la marde. Faut que ça goûte la marde. Faut que ça ait une texture de marde. Et vous allez pouvoir vous geler avec cette marde-là. Que l'on vend. Je me rappelle plus le nom, je pense que je l'avais quelque part là. C'est... En tout cas, c'est du jerky, c'est du des morceaux de viande infusés au THC, c'est bien sûr. Je pense que je vais en acheter juste pour pouvoir constater qu'effectivement ça goûte, ça sent et ça a l'air de la merde. Mais bon. On dit qu'un morceau d'un ces morceaux-là de beef jerky. Hey, j'en broye, c'est pas une joke. Contient entre, à peu près entre 4,5 mg de THC et 0,75 mg de CBD. Le THC, c'est la partie qui gèle. Le CBD, c'est la partie qui fait rien. Même si on lui donne des vertus thérapeutiques, pas mal sûr que ça fait rien. 9 grammes de protéines et 50 calories. Voici les valeurs nutritives de ce morceau de boîte-là. Il va être dégueulasse. Il faut attendre des effets, on rappelle, hein, qu'il faut attendre des effets jusqu'à 60 minutes. Ça peut être long avant que ça apparaisse. Et long encore plus avant que ça disparaisse. Ça peut vous geler pendant 8 heures, ce morceau de viande peu ragoûtant. C'est assez... je trouve ça très comique. Bon, ben, on va finir là-dessus, puis ça sera pas pour aujourd'hui, la dégustation, mais peut-être qu'éventuellement, tu sais, dans un after show, je me prêterai à l'exercice de goûter à ça, puis j'irai me coucher après pour subir les effets. Mais j'ai hâte de voir si c'est aussi peu attrayant que ce que l'on dit. Puis, ben, nous autres, ben, on se reparle demain avec un paquet d'autres nouvelles parce qu'on était un peu amputés aujourd'hui à cause des problèmes techniques. Demain, on va essayer de s'amuser un petit peu. Salut tout le monde.
Membre de la famille H2O Web Media.